Bonjour, bienvenue sur Radio Vulve, la radio qui fait parler toutes les lèvres et plus si affinité. Aujourd'hui, on va parler des types. Les types. Ça va être ça le titre de l'émission, tiens. Les types. Mais donc, les types 6, les hommes, pourquoi? On va parler un petit peu de ce que ça fait de relationner avec, amoureusement, amicalement. On va parler beaucoup de sentiments d'injustice, hein, de la fragilité que ça nous fait à nous. Alors, nous, pour moi, c'est les meufs, mais j'ai cru comprendre que c'est des trucs qui sont assez présents pour les personnes trans, les personnes non-binaires aussi. Le tout sera habité par une ambiance générale de râlerie, et agrémenté de chansons qui seront douces comme le torse de ce type que j'avais vaguement fréquenté. Il se rasait à cet endroit-là. Et puis, du coup, il avait hérité du surnom de Monsieur Spontex, parce que vraiment, j'avais l'impression de faire le sexe avec une surface récurrente.
C'est le moment de libérer la chatte.
Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois?
J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés.
Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc.
Mais combien de fois t'as simulé?
Qu'il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis.
Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos.
Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre?
Moi j'adore les histoires de pénis.
Oh là là, voilà un béga que j'aimerais me faire.
Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro?
Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus.
Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Oui, en fait, c'est des litres de salive sur le 89.5 de Radio Duo. On va parler fragilité masculine aujourd'hui, et de types qui non seulement sont relous, mais en plus font Et on commence par une anecdote, l'anecdote typique, celle où une personne vous raconte son rêve. C'est un rêve que j'ai fait la semaine dernière après une soirée intense de discussion à propos des relations. Alors du coup, dans ce rêve, je suis dans une sorte de guinguette, c'est l'extérieur, tout ça, mais c'est un peu circonscrit par des chapiteaux, des trucs comme ça. Et il y a deux parties qui sont reliées par un bar, couloir, et je suis avec une personne qui me fait attendre, tout en s'excusant, mais quand même, elle me fait bien attendre. Et il y a des ambiances différentes dans la guinguette, je sais pas exactement où aller, je m'avance dans une des salles pleines de tables avec des chaises autour. Je cherche une table où m'asseoir et où mes amis vont me rejoindre. Et là, apparaît dans mon champ de vision un sublime tamanoir géant. Il est très très élancé comme s'il était étiré et il mesure bien une tête de plus que moi. Mais il se tient à quatre pattes comme un tamanoir lambda. Et quand je le vois vraiment, je le trouve trop super. Je me sens tellement chanceuse de le voir, c'est un être tellement exceptionnel. Je m'approche avec précaution en me sentant de plus en plus chanceuse hein, parce qu'il se laisse approcher. Et puis, je touche son museau et là, il y a une vague d'émotions qui me submerge. Il sort sa grande langue toute fine, et il commence à l'enrouler autour de deux de mes doigts. Je le laisse faire, hein. Je suis assez fascinée. Et puis c'est agréable, hein. Il continue un moment, et petit à petit, il se met à mordre les doigts. Alors d'abord doucement, et puis d'une façon un peu plus douloureuse. Il alterne les moments où il lèche les doigts, et les moments où il les mord. Je commence un petit peu à saigner et en avoir un peu marre. Mais c'est impossible de me détacher de lui parce qu'en même temps, je me sens toujours si chanceuse de susciter l'intérêt de cet animal complètement merveilleux. Et c'est douloureux et je commence à avoir envie de m'en débarrasser. J'ai envie d'aller à ma table pour boire des coups avec mes amis, mais je suis quand même trop fan de lui et j'imagine le trimballer jusqu'à la table pendant qu'il me mord les doigts et les fait saigner. Ça me fatigue d'avance. Hein. Je trouve que cet amanoir, c'est un boulet. Et quand le rêve prend fin, sur les derniers instants, je suis partagée entre d'un côté une fascination profonde, l'impression d'avoir de la chance. Et d'un autre côté, bah, je suis fatiguée, j'aimerais bien qu'il me foute la paix. Bon voilà, donc, clairement j'ai rêvé de l'hétérosexualité, enfin du principe général des relations hétérosexuelles. Un tamanoir fascinant comme le sont les types, fascinant comme... pas tous les types, ouais. Fascinant comme le désir, l'impression de tomber amoureuse et tout ça qui s'enroule autour de vous et puis finalement qui essaye de vous grignoter. Et maintenant, une histoire de covoiturage. Alors, c'est un récit qui décrit entre autres des comportements abusifs à la limite de l'agression, voilà, faut le savoir, c'est pas super sympa. C'est une histoire qui aide à capter l'utilisation que font certains types de bouts d'analyse féministe sur les oppressions, et ils s'en servent bien sûr pour faire alors qu'ils sont absolument pas concernés. Et bon, ça permet un petit retour sur comment fonctionnent et s'entremêlent les rapports de pouvoir, et puis les oppressions, bien sûr. Donc c'est un texte qui s'intitule « Quand les hommes me parlent de leur tub », les hommes étant bien sûr les hommes cis. Non. Voilà, c'est la rentrée. Comme beaucoup, je prends un covoiturage pour rentrer chez moi. On va rouler en fin de journée et puis une partie de la nuit, on n'est que deux dans la bagnole pendant les trois quarts du trajet. Lui, le conducteur, c'est un homme cisgenre, blanc, d'une cinquantaine d'années. Plutôt bourgeois, vu la bagnole dans laquelle il se déplace. Moi, je suis une meuf cisgenre blanche, la trentaine. Et donc, il y a une situation d'inégalité en ma défaveur par rapport au genre. Voilà, meuf, mec. Au statut lié à l'âge, parce que je suis plus jeune, et aux moyens financiers, parce que c'est un bourge. Et il se trouve que cette personne était également un universitaire en exercice. Donc il dispose d'une légitimité intellectuelle et institutionnelle en plus, à fond. On a donc une relation avec ce type qui est déjà cadrée par des inégalités pour des raisons d'identité et de contexte à la fois. Ça aurait quand même pu bien se passer, mais en fait pas vraiment. On commence à papoter, donc je parle féminisme, et... il me dit qu'il est lui-même sensible à ces questions, qu'il a plein d'amis féministes. Et puis soudain, sans transition, la conversation s'oriente vers sa bite. Et quand je dis ça s'oriente vers sa vie sexuelle, mais ça s'oriente pas sur la sexualité en général, non. Ça s'oriente sur sa sexualité. Et puis bon, vous aurez compris, j'avais rien demandé du tout. Et ça me stresse. Mais je continue à parler normalement, j'écoute pas trop mon envie d'arrêter et ma sensation de sidération. En fait, je l'ai pas hyper bien vécu a posteriori, j'arrive un peu mieux à expliquer pourquoi. Donc je vais faire ça en plusieurs points qui se renforcent et qui sont plus ou moins liés les uns aux autres par des dynamiques, dans ce cas-là, sexistes et assez classistes aussi. Alors le premier point, c'est tout simplement, c'est dur de dire à une personne qu'elle vous met mal à l'aise. La politesse, ça peut entraver. On n'a pas envie de vexer, de risquer le conflit. On met des plombes à se sentir légitime d'exprimer ses ressentis et de faire respecter son bien-être en limitant un petit peu les débordements de l'autre. On n'a pas envie que l'autre nous trouve désagréable. Et ça, c'est quelque chose qui est très amplifié par les habitudes comportementales liées à l'identité de genre, dans mon cas. Voilà. Bon, ensuite, faut savoir que ce gars, il me parlait de pratiques sexuelles marginales. Et mon histoire, mon bagage féministe, hein, mais j'ai conscience du stigmate qui pèse sur les sexualités qui sortent même à peine de la norme. Donc j'avais pas envie de le rejeter ou de le silencier par rapport à ses pratiques. Et bon, d'ailleurs, ça me fait penser au point suivant. Il m'a dit que... il était sensible au féminisme, tout ça, conscient des oppressions. Mais s'il était si sensibilisé que ça, il m'aurait absolument pas infligé cette conversation dans un contexte où il avait le dessus et où je n'avais absolument pas le choix de l'endroit où je me trouvais. Il m'a pas prévenu, il s'est pas assuré que ça me convenait. Il a pas checké s'il me dérangeait absolument pas à aucun moment. Et ça, c'est un indice. En fait, c'était plutôt un jeu de pouvoir plutôt qu'une conversation sincère. Donc en plus, il a mis en avant la marginalité de ses pratiques, donc ça a encore plus freiné mes éventuels élans de lui dire de la fermer, voilà. Et j'avais peur de me montrer oppressive. Bon, à un moment, il y a même eu un truc de responsabilisation et culpabilisation par rapport à sa facilité à aborder sa vie sexuelle avec moi. C'est-à-dire que j'ai eu le malheur de lui dire qu'il y a déjà des gens qui m'avaient parlé de pratiques sexuelles inhabituelles, et j'ai eu droit à, je cite, « Avec ton look, c'est normal que les gens te parlent de ça. » Ce qui est encore pire avec ce propos, c'est qu'il montre vraiment qu'il s'appuie carrément sur les oppressions dont je suis victime par rapport à ma sexualité, à mon apparence de meuf pseudo-marginale, parce que, en plus, pour un bourge que ça arrange bien, j'ai l'air marginale, mais bon, bref, voilà. Donc il s'appuie sur ça, mon oppression, pour me considérer comme accessible et disponible. Et sa marginalité à lui, d'un autre côté, c'est plutôt un argument pour que j'accepte son comportement. Donc en gros, ma marginalité me fragilise, et la sienne, elle lui donne plus de légitimité pour me saouler. Comme beaucoup de domaines, mais je soupçonne que c'est plus valable dans la sexualité, les singularités masculines, surtout bourgeoises, elles sont plutôt un signe de distinction, alors que les singularités féminines sont utilisables pour silencier, culpabiliser, écrabouiller les meufs, de manière plus ou moins subtile. Un autre truc qui a été un peu compliqué pour moi à traiter pendant ce trajet, c'est qu'il n'y a pas eu de proposition sexuelle directe, mais que je me suis sentie comme s'il y en avait une. Et même encore pire, au moins quand la proposition sexuelle elle est claire, on peut dire non. Et en fait, la transgression des limites personnelles que représente l'exposition crue de l'intimité de cette personne, bon, c'est déjà une transgression, c'est déjà irrespectueux, et déjà susceptible d'entraîner de la sidération et l'ambivalence de comportements propres aux agressions sexuelles. Le problème, c'est pas le sujet de conversation, mais de l'imposer sans aucune considération pour l'autre. C'est un peu une version verbale de des dick pics, en fait. Enfin, je te montre ma tub au cas où ça t'intéresse. Hein. Sauf que là, ça dure 6 heures de trajet en voiture, quoi. C'est sympa. Ça m'a beaucoup fait penser aussi à ce que j'ai pu lire sur les bourgeois à l'époque, aussi sur les aristocrates, tout ça, qui, eux, avaient des pratiques sexuelles alternatives, mais qui s'en octroyaient le droit au nom d'un certain élitisme. Enfin, eux, certains. Eux qui sont des humains de meilleure qualité. Quand ils baissent autrement, c'est de l'art, c'est la finesse de leur esprit qui les pousse vers des délices interdits. Alors que les prolos qui font ça, c'est des bourrins, voire des délinquants. Ceci m'a poussé à défendre Fifty Shades of Grey au cours de la conversation avec cet atroce type. J'ai défendu l'accessibilité à toutes du bouquin et la très légère ouverture des pratiques sexuelles qu'il avait pu populariser, et bien que d'ailleurs les rapports de pouvoir entre les personnages principaux sont immondes. Voilà, du coup j'ai défendu Fifty Shades of Grey quand même, voilà à quoi j'en ai été réduite. Bon, c'était pas vraiment la première fois que j'expérimentais ce genre de situation et que je ressentais tout ça, même si c'est toujours une surprise désagréable. Au bout d'un moment, quand même, j'ai réussi à lui dire que j'étais gênée, et à le calmer un petit peu dans ses digressions de la nique, là. Bon, pour une prochaine fois, j'essaierai de me rappeler de dire « je suis mal à l'aise » et de couper court immédiatement, dès que je me sens mal à l'aise, et peut-être ça serait une bonne méthode. Bon, sinon, je peux le découper en rondelles, en fait. Ça serait plus efficace, mais ça risque d'être salissant. Et en plus, je sais pas conduire, alors je vais être un petit peu dans la merde.
goodness gracious, I might give a fuck on a rare occasion. I will steal my sauce too, cause it's outrageous. Do what you gonna do, you don't gotta explain it. I just boot it up, so I'm concentrating. How much money can I make on vacation? Walk up in the party, now they eyebrows raising. Two bands on my shoes, they ain't even got laces. Cause this shit ain't for sale. I catch her off a basic bitch, cause I might break your nail. You a fucking donkey, I'ma let this chop up in your tail. I'm stuck in traffic, music blasting. They wanna know how it happened. Salute me like I'm the captain. You bitches is not a challenge. I don't do shit for a reaction. One action, I'm snapping. Stop with the rack up Balenciaga, my fashion. My bitch is raging and blacking out. Keep my name out your fucking mouth before you find out what we about. Type of shit that you read about. If you talk it,
et c'était Rico Nasty, cette personne avec un énervement tellement merveilleux. Maintenant, j'espère que vous êtes prêtes pour quelques définitions. Et on va se pencher sur la définition de la masculinité hégémonique, ou le vilain mot d'universitaire. En vrai, apparemment, on peut juste dire masculinité dominante. Voilà. Donc c'est la masculinité hégémonique, c'est une expression qui vient de la sociologue australienne Rewyn Connell, et le concept il est développé dans son bouquin Masculinities, qui date de 1995. En gros, la masculinité hégémonique, c'est l'expression de la masculinité qui est dominante dans les normes de masculinité en vigueur, et en même temps maintient la domination sociale sur les personnes d'un autre genre que masculin. Prenons un exemple désagréable pour illustrer. Donc un type tête de cul qui me fait une clé de bras très brutale et me met au sol parce que je lui ai fait des chatouilles. Oui, ça m'est arrivé deux fois avec deux types différents. Voilà, donc clé de bras au sol, machin, pour des chatouilles. Donc là, l'événement qui se passe, ça correspond avec les normes de masculinité, parce qu'il est violent. C'est exercé sur une meuf, donc il y a un maintien du rapport de domination selon le genre. Alors, j'ajouterais que c'était en public, et que tous les témoins, qui étaient des mecs, des meufs de 25 à 35 ans, sont passés complètement à côté du fait que la réaction violente était disproportionnée. Et au lieu de remarquer la disproportion, on m'a dit que c'est moi qui avais cherché et que je l'avais mérité. Donc on constate que ce comportement masculin violent et envers une meuf bénéficie en plus de l'appui d'une certaine légitimité sociale. Donc cette histoire, elle peut illustrer la masculinité hégémonique, la violence masculine exercée sur une meuf, mais il n'y a pas que la violence physique qui permet d'exercer du pouvoir. Les structures sociales et institutionnelles, elles sont favorables à la masculinité hégémonique. Elles permettent des violences moins littérales et plein de pression, par exemple, sur ma santé, dans le cadre du travail, de trucs de merde de management, tout ça. Et bon, bien sûr, oui, bien sûr, et là, de façon régulièrement tout à fait physique, il y a la police qui fait de la violence institutionnelle en correspondance avec la masculinité hégémonique. Dans pas mal de médias mainstream, on note aussi l'apparition du terme masculinité toxique. Dans les articles, hein, alors j'en ai vu sur les sites de Marie Claire, Femme Actuelle, Cosmos, Slate, tout ça. Donc dans les articles qui décrivent ce phénomène, on note des trucs récurrents. Donc, premier truc récurrent, les stéréotypes invoqués sont toujours un petit peu les mêmes. Hein. Donc c'est exercice de la violence, plutôt physique, hein, et absence d'expression des émotions. Voilà, les deux pans, hein. Violence, pas d'expression des émotions. L'autre truc récurrent, c'est que les articles font appel à des changements comportementaux individuels. Et le troisième truc récurrent que j'ai détecté, c'est que le fait que les hommes en souffrent aussi est mis en avant. On peut lire, pour voir la définition, une citation de la meuf, son nom de famille c'est Marcotte, j'ai plus son prénom, qui a popularisé le terme masculinité toxique vers 2010 et qui l'a défini comme « C'est un modèle spécifique de la virilité orienté vers la domination et le contrôle. C'est une virilité qui perçoit les femmes et les personnes LGBT comme inférieures, qui conçoit le sexe comme un acte non pas d'affection mais de domination et qui valorise la violence comme seule façon de s'imposer dans le monde. » Mais en fait, bon, il y a certains des articles sur lesquels je suis tombée qui le disent, hein, dont l'article sur le site de Slate. En fait, le terme masculinité toxique, il vient des masculinistes qui font ouin ouin quand même. Et peut-être c'est déjà un peu un problème, enfin je trouve. Ensuite, dans les raisons invoquées pour expliquer la masculinité toxique dans tous ces articles, on trouve beaucoup l'éducation parentale, la culture. On trouve essentiellement l'éducation parentale, la culture. Mais pas ou peu de mentions des structures qui rendent légitime la domination masculine, des lois, du travail, des institutions, du management, le capitalisme, tout ça là. Donc c'est surtout le niveau individuel qui est mis en avant. Il y a un article de Joao Gabriel qui parle de masculinité toxique et qui est publié sur le site Huffington Post. Donc Joao Gabriel, c'est un activiste qui a un chouette blog par ailleurs. Donc cet article critique cette focalisation sur des comportements individuels qui, en plus d'être superficiels, est facilement instrumentalisable pour stigmatiser uniquement les comportements des hommes des classes populaires et racisées. Donc ce genre d'utilisation de propos et concepts féministes dépolitisés à des fins racistes et sécuritaires s'illustre par exemple en France avec la récente loi contre le harcèlement de rue, qui n'est qu'un prétexte pour contrôler encore plus l'espace public et ne va aider strictement personne. Donc je peux que conseiller la lecture de cet article de Joao Gabriel qui va plus loin. Mais donc, entre le terme masculinité hégémonique et masculinité toxique, la dimension politique de la critique s'est un peu perdue. Les individus sont invités à remettre en question des comportements précis et ponctuels et on oublie que ces comportements reposent sur des structures de domination profondes et ne sont que la partie la plus visible et surtout la plus visibilisée de la domination masculine. Voilà, c'est super. À présent, on va se pencher sur un discours réactionnaire assez commun qui détourne le savoir sur le féminisme et les oppressions au bénéfice des types. Ce discours est très fréquemment mobilisé en réponse à des remises en question féministes de comportement masculin, d'où l'adjectif réactionnaire, parce que c'est une réaction défensive. Alors, du coup, ce discours, c'est le discours des types qui avaient des lunettes. Ça marche aussi avec les types qui n'avaient pas de muscles, ou alors avec les types qui ne faisaient pas de football. Voilà. Les caractéristiques de ce discours, c'est que ils utilisent des apports féministes pour leur propre bénéfice, en s'appuyant sur le fait qu'on ne définit pas le genre de quelqu'un d'autre, en effet, et en cherchant désespérément tous les privilèges qu'ils n'ont pas et en les listant, voilà, comme ça. Généralement, les privilèges qu'ils n'ont pas, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient des hommes, ça a plutôt à voir, généralement, de ce que j'ai entendu le plus souvent, avec la classe sociale, hein, ou les moyens financiers. Donc on peut voir par exemple tous les discours sur les meufs qui sont tellement privilégiées pour pécho, le manque d'argent qui empêche de sortir et de rencontrer des meufs. Et outre le fait que ça renvoie les meufs à être des objets sexuels et ou de distraction, en fait c'est la pauvreté qui est un frein, ce n'est absolument pas l'appartenance à la classe homme. Voilà. Plus généralement, ce discours, il entretient une confusion entre ne pas se reconnaître totalement dans les normes de masculinité hégémonique et ne pas être dans la catégorie sociale homme. Donc il y a une confusion. Bizarrement, je ne peux pas m'empêcher de remarquer, on n'entend pas trop de meufs dire qu'elles se sentent insultées d'être définies comme des meufs cis, alors que ça peut être des meufs qui s'identifient absolument pas aux normes de féminité en vigueur. Alors bon, peut-être, hein, c'est surtout une peur d'être considérée comme un oppresseur qui ressort de ce discours. Et un manque d'envie de regarder les choses en face. Souvent, ça vient de types qui se reconnaissent vraiment pas dans les normes. Enfin, souvent, des fois, en tout cas. Donc ça peut venir de types qui se reconnaissent vraiment pas dans les normes et qui ont souffert des normes de masculinité. Et bah, ça se comprend. D'ailleurs, les récits de masculinité qui diffèrent de la norme, c'est quelque chose d'intéressant et dont je questionne pas du tout la légitimité. Ce que je questionne, c'est que la plupart des fois où j'entends ou lis que des personnes socialement identifiées comme des hommes, se genrant quotidiennement au masculin, bénéficiant des privilèges qui vont avec, ne s'identifiant pas comme féminin, tout ça ne voulant pas dire que ce sont des hommes, des hommes cis, je sais. Mais bref, que ces personnes, que quand même elles ont bien l'air d'être des hommes, ne rejettent le genre masculin comme étant le leur que dans des situations où une critique vis-à-vis des hommes cisgenres était mise, c'est un peu suspect. Et c'est toujours utilisé dans le but de disqualifier des propos critiques. Bon, par exemple, les hommes cisgenres ont fréquemment des comportements abusifs en relation amoureuse du fait de leur construction masculine. Ah, mais moi, je suis pas un homme, tu m'insultes en me traitant d'homme cis, parce que quand j'étais petit, j'avais des lunettes et les autres enfants, ils me tapaient. D'autre part, on dirait que ça leur pose problème qu'on les définisse, qu'on les place sur l'échiquier social, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils sont pas une catégorie d'habitude, leur catégorie elle est invisible parce qu'elle est la norme et que le monde entier est fait pour eux. Je parle des hommes cis blancs et bourgeois plutôt là. Et du coup pointer leur appartenance de catégorie et la critiquer en plus, ça provoque des réactions. En fait le fait de brandir sa non-appartenance au genre masculin soudainement en cas de critique et pour que les meufs ferment leur gueule, c'est un petit peu questionnant. Ouais, c'est pas questionnant, c'est de la merde en fait. Et c'est un exemple de comment les types cis utilisent le discours féministe et queer en le retournant pour encore et encore maintenir des rapports de pouvoir en leur faveur. Il y a un pendant à ce discours, il y a un pendant donc au discours du type qui a des lunettes, c'est plutôt le discours du type feignasse pro-féministe. Et ça consiste à dire « Non, mais oui, j'ai été nulle, mais c'est ma vilaine masculinité, gna gna gna, mes constructions sociales, dont j'ai conscience, alors déjà je suis super et je veux bien une médaille, s'il te plaît. Ce sont mes constructions sociales qui font que je suis pas capable de me comporter décemment avec les meufs avec lesquelles je ken ou pas, ou avec mes potes. Et » Et bon, c'est un autre exemple de comment les types cis utilisent le discours féministe et ou queer pour encore et encore maintenir les rapports de pouvoir en leur faveur, prendre toute la place, silencier les meufs. Leur grande passion. Et maintenant, on va passer à un autre type de définition. On va définir en négatif. On va parler de ce que les types cis ne font pas. On va parler de la charge émotionnelle. Et la définir un petit peu, du coup. Alors, la charge émotionnelle, qu'on peut aussi appeler travail émotionnel, c'est un travail d'attention et de soin vis-à-vis de l'autre et de ce qu'il ressent. Donc dans la sphère professionnelle et dans l'espace public, ça désigne tout le travail de présentation, de modulation de ses expressions faciales, d'attitude ouverte et agréable envers tout le monde, hein, les clients, ses collègues, divers inconnus. C'est penser à souhaiter les anniversaires, organiser les pots de départ. Souvent, ce travail, il n'est pas reconnu parce que les femmes, elles sont censées le faire naturellement. Et en parallèle, si elles ne le font pas, ce sera remarqué et jugé négativement bien plus que chez leurs collègues masculins. Par exemple, s'il y a une meuf au guichet de la SNCF qui sourit pas, elle va être jugée désagréable. Un homme, lui, il va être plutôt jugé sérieux, professionnel, préoccupé éventuellement, plus facilement. Voilà, ça c'est le double standard de jugement sur par rapport au genre. Donc cette pression sur les femmes, elle est renforcée par le fait qu'elles occupent la majorité des emplois de soins, d'accueil, tout ça. Et il y aurait de nombreuses choses à dire sur l'essentialisation des qualités dites féminines au travail et sur l'exploitation capitaliste, dépourvue de compensation qui en découle. Et on me faisait remarquer il y a quelques jours que c'est pas valable que dans le cadre du travail, mais que c'est valable, enfin, c'est valable aussi dans le cadre du travail gratuit, associatif, etc. Voilà. Donc, le travail émotionnel dans la sphère personnelle, c'est un travail d'écoute, d'empathie et de prise en charge des émotions de l'autre. Alors l'autre, ça peut être un partenaire, un ami, un membre de la famille, dans le but de lui faire du bien. Et aussi, c'est la prise en charge du travail lié aux relations affectives. La répartition du travail émotionnel, elle est inégalitaire. Elle pèse majoritairement sur les meufs, les personnes assignées meufs, les personnes trans, les personnes non-binaires. Ce phénomène, il s'explique par une différenciation des attentes dès le plus jeune âge et une vision du soin de l'autre et des émotions comme des domaines féminins. C'est fréquent aussi que les hommes ils aient une vision superficielle de ce en quoi consiste le travail émotionnel et qu'à cause de leur construction masculine, ils ne développent pas les capacités d'empathie, de communication qui sont nécessaires. Mais bon, le fait qu'il y ait toujours des meufs pour le faire à leur place, ça peut également leur permettre de ne pas trop s'investir dans cet apprentissage. Les rapports de domination, ils influent sur la répartition du travail émotionnel. Les personnes dominées, elles sont poussées à se mettre au service des dominants, y compris concernant leur bien-être psychique. Dans de nombreuses situations, le souci des émotions de l'autre, il est aussi là pour éviter de nous faire maltraiter psychologiquement à cause de ses réactions. Donc on utilise de l'énergie à adapter notre discours pour ne pas subir sa colère, ses accusations, sa culpabilisation. On fait attention à l'autre, plutôt par crainte de conséquences désagréables, voire violentes. On peut aussi parler d'une autre charge qui va un peu avec la charge émotionnelle, qui est la charge sexuelle, qui désigne le fait de prendre en charge le bon déroulement des rapports sexuels, la communication avant, pendant et après, l'attention à l'autre, à ses envies, son plaisir, tout ça. Et qui comprend également la charge de la contraception. Voilà, ça faisait beaucoup de charges. On fait une petite pause musicale. On va écouter Les Vieilles Salopes avec La Nuit avec vous.
Sur le boulevard, presque sans vêtements, je me baladais sur l'avenue, le corps ouvert aux inconnus. Quand soudain vous êtes apparu, et là mon petit cœur a flanché. Je me suis senti bouleversé quand vous m'avez plaqué au sol, puis les mains sur toi de la bagnole pour me faire une soupe corporelle. J'avais si froid, je suis si frais, je me suis senti vite rassuré dans vos bras en sécurité.
S'il vous plaît, monsieur le policier, gardez-moi en captivité. S'il vous plaît.
Je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez moi au trou. Dehors il n'y a que des voyous. Moi je veux passer la nuit avec vous. La matraque et le revolver, vous faites la traque aux gangsters. Vous débarrassez notre vie, pays de la racaille et des bandits. Vous êtes si viril et si fort, si prestigieux dans l'uniforme. Menottez-moi à votre poignet, je ne veux plus jamais vous quitter.
S'il vous plaît, monsieur le policier, gardez-moi en captivité. S'il vous plaît, jetez-moi.
Je ferai plus idiote, je veux passer la nuit au poste, s'il vous plaît. Jetez-moi au trou. Dehors il n'y a que des voyous. Moi je veux passer la nuit avec vous. Je veux passer la nuit avec vous. Je veux passer la nuit avec vous.
Ah
Et merci, les vieilles salopes. Peut-être vous allez pas me croire, mais moi je suis une meuf hyper sympa. Genre vraiment, je suis hyper sympa. Et je comprends très bien qu'un type, il soit incapable de répondre à un message ou de présenter des excuses quand il a été pourri. Je sais que son énergie doit être consacrée à des buts plus nobles, comme par exemple l'art ou la littérature, ou alors, des fois, le militantisme, ou sa teub. Et surtout en ces temps troublés où tout le monde va super bien, hein, sauf les types. Donc voilà, dans un instant, je vais fournir... Il faut bien écouter les types. Hein, je vais fournir une liste de bonnes excuses pour pas répondre. Que vous pourrez vous répéter dans vos têtes si jamais un brin de responsabilité affective pointait le bout de son nez et vous niquez votre concentration sur votre propre nombril. Le stress, quoi. Donc voici les excuses pour pas répondre. Spécial mec 6. Étrangement, les personnes qui appartiennent pas à la catégorie mec 6, elles en ont pas besoin. Parce que comme par hasard, même quand personne ne va très bien, les meufs, les personnes trans, les personnes non-binaires, elles continuent d'assurer la maintenance émotionnelle. Avant de vous livrer ces excuses très utiles, petite anecdote, je me souviens de ce type avec qui on a vu un date, et puis il avait l'air intéressé, il me tournait autour, tout ça. Et puis, il s'était pas passé grand-chose, mais soudain, il avait cessé de répondre à mes messages. Et quand j'avais insisté, j'étais là, hé, il se passe quoi ? Il m'avait répondu, eh ben, si je réponds pas, c'est que c'est clair, non ? Et bon, je crois que je vois à peu près où il veut en venir. En effet, c'est très clair que ce type est un sac à merde dépourvu de considération pour moi. Juste dire, je ne souhaite plus qu'on se voit, c'était apparemment trop extrême. Et non, ce n'est pas clair de juste rien dire. Pour ce que j'en sais, il aurait pu être mort, en fait. Et c'est une autre histoire, mais vraiment, vraiment, des fois, on croit que les gens, ils nous ghostent, mais en fait, ils sont morts. Voilà. Donc, les types, tendez l'oreille, arrivent les super excuses pour ne jamais répondre à un message. Je me suis coincé les doigts des deux mains dans un gaufrier allumé pour me distraire de mon mal-être existentiel. Du coup, impossible de taper les messages. Guy Debord a mangé ma main. Non, mais je suis sur un projet, ça me prend toute mon énergie. C'est tellement passionnant. Tu devrais t'intéresser à des trucs, toi aussi. Ça me met la pression de répondre. Alors la connexion entre mes doigts et mon système nerveux, elle est trop perturbée pour taper des messages. Non, mais moi, je pense que l'essentiel se passe de mots. Ça peut être remplacé, celui-là, hein, par toute autre connerie pseudo-philosophique, hein, qui est bizarrement pratique sur le moment. Je suis occupée. Trop pour taper un message d'une ligne. Je savais pas quoi dire, mais je t'ai envoyé un lien pour que tu regardes le film de Guy Debord. Tu devrais ouvrir tes perspectives au lieu de penser à des choses aussi terre-à-terre que la communication. De toute façon, ça servira à quoi que je te présente des excuses. Tu devrais être assez autonome pour passer à autre chose. En fait, tu te rends service en te répondant pas. J'ai pensé à te dire quelque chose, mais j'avais peur que tu le prennes mal. Guy Debord m'est apparu en rêve. Et il m'a dit « Surtout, surtout ne réponds pas à cette meuf, c'est bourgeois. » Non, j'ai absolument pas de problème avec Guy Debord. J'ai eu peut-être des problèmes des fois avec des membres de son fan club, voilà. Et en fait, vraiment, j'arrive pas à en avoir quelque chose à foutre. Genre, sincèrement, j'ai essayé hein, de m'y intéresser à Guy. Mais en dehors du fait que des fois ça puisse être pertinent, tout ça, et bien quand même c'est un vieux type qui fait des phrases obscures en se touchant la nouille. Et il y en a déjà trop, en fait. Bon voilà, on se moque, on se détend, on râle. Mais plus sérieusement, la constance de ne pas recevoir de considération de la part de personnes avec lesquelles on avait une relation affective, sexuelle, quel que soit le degré d'engagement de cette relation, ça finit par user. Ça finit par toucher un petit peu dans l'ego et aller jusqu'au cœur un peu quand même. Et justement, pour se mettre un petit peu de baume au cœur, lisons quelques lignes de Scum Manifesto que j'ai racheté de Valérie Solanas. Je cherche la page. Le mal, qui méprise sa nature déficiente, est saisi d'une anxiété profonde et submergé par une immense solitude lorsqu'il se retrouve dans sa seule affligeante compagnie. Il s'accroche alors à n'importe quelle femme, dans le vague espoir de remplir son vide intérieur, et se nourrissant de l'illusion mystique qu'à force de toucher de l'or, il se transformera en or. Il convoite en permanence la compagnie des femmes. Il préfère à sa propre compagnie et à celle des autres hommes, celle de la femme la plus méprisable. Mais pour parvenir à ses fins, il est obligé d'employer la force ou la corruption, à moins de tomber sur des femmes très jeunes ou très atteintes. L'homme, incapable d'entrer en relation avec les autres, voire plus haut, est contraint de se donner l'illusion de servir à quelque chose, s'active pour justifier son existence à creuser des trous et à les remplir. L'homme est horrifié à l'idée d'avoir du temps libre pendant lequel il ne trouverait rien d'autre à faire que de contempler sa grotesque personne. Puisqu'il ne peut aimer ni établir de contact, l'homme travaille. L'artiste mâle essaie de compenser son incapacité à vivre et son impuissance à être une femme en fabriquant un monde complètement factice dans lequel il fait figure de héros. C'est-à-dire s'affuble des caractéristiques féminines et où la femme est réduite à des rôles subsidiaires insipides, c'est-à-dire fait figure d'homme. L'art masculin, ayant pour but de communiquer, un être entièrement vide n'a rien à dire, mais de déguiser la réalité bestiale de l'homme, il a recours au symbolisme et à l'obscurité, au profond. La grande majorité des gens, en particulier les personnes « cultivées », entre guillemets, n'osant pas juger par elles-mêmes, humbles, respectueuses des autorités. « Mon papa y sait », devient dans le langage adulte, les critiques y s'y connaissent, les écrivains y savent mieux, et les agrégés, ça en connaît un bout. Se laisse facilement persuader que ce qui est obscur, vague, incompréhensible, indirect, ambigu et ennuyeux, est à coup sûr profond et brillant. Voilà. Merci Valérie Solanas. D'ailleurs, c'est un peu la grande mode ce bouquin. Genre il a été réédité et tout, et moi ça m'arrange pas mal parce que j'ai prêté ce bouquin il y a longtemps à un type qui me l'a jamais rendu. Et là ça a été facile de le retrouver. D'ailleurs je peux pas m'empêcher d'imaginer ce type en lire des passages à voix haute, des passages qui le concerneraient grandement d'ailleurs. Et puis en même temps il les lit à voix haute et il se flagelle d'une façon un petit peu érotique... Mais je suis pas sûre que tous les types qui s'intéressent à Scum Manifesto, ils s'y intéressent par simple masochisme. C'est déjà arrivé qu'un gars, il m'en parle en mode « Oui, c'est intéressant, là 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 ». Et puis maintenant, il y a des émissions sur Valérie Solanas, l'auteur du Scum Manifesto. Il y a des émissions sur elle, sur France Q, tout ça. Et moi, je suis contente. Et puis, il y a eu d'autres bouquins, par exemple « Moi, les hommes, je les déteste », bon, qui est absolument pas dans le même style et qui est vraiment un bouquin très très raisonnable quand même. Et bon, parfois, je me demande si ces trucs-là, qu'ils soient acceptés comme ça, je me demande si c'est pas un désamorçage de la misandrie et des propos misandres. L'enthousiasme de certains types envers ces bouquins, le fait que ça parle quasi dans des médias mainstream, que ce soit plus accessible, c'est comme si ça rendait possible de discuter de misandrie comme d'un objet intellectuel et culturel quelconque. Comme si les types arrivaient à se sentir concernés par le sujet comme par n'importe quel sujet intellectuel, en oubliant que ça parle d'eux. Et puis ça parle dans des termes vraiment pas élogieux. Hein. Et les sujets intellectuels, comme c'est leur domaine, c'est quelque chose sur lequel ils, en tout cas, ils, c'est, là dans ce cas, c'est les types plutôt privilégiés, familiers avec la culture. Donc c'est quelque chose sur lequel ils ont de la maîtrise, le domaine intellectuel. Le fait que le sujet y passe dans le domaine des sujets courants, abordable en société, le fait qu'ils se sentent légitimes à en parler. Et puis le fait que ça soit pour en dire du bien, ça m'inquiète encore plus. Enfin, c'est un bouquin qui dit que les types, ils devraient juste la fermer pour toujours. En fait, quand un bouquin, il est reconnu et qu'on en discute sur France Culture, il passe dans un monde, pour moi, hein, où des vieux types vont tout sauter comme ça, là, en le vidant de toute sa substance de vénéritude, et puis en faire un truc purement intellectuel, plat et inoffensif. Et bon, pour l'instant, j'exagère, je m'alarme un peu vite, hein, peut-être. On dirait que les trucs les plus subversifs, en fait, même les plus crades, quand on les intellectualise, ils deviennent acceptables et mis à distance. Genre Sade. C'est juste dégueulasse, hein, Sade. Mais, les classiques, l'érotisme à la française, gna gna gna. Mais ça parle de viol et de coprophilie, les gens, en fait. Bref, ça commence à me fatiguer, ces types que je croise dans ma vie quotidienne, pas trop souvent, hein, heureusement, et que j'entends discourir sur le féminisme, et qui s'y intéressent depuis que c'est la mode, et qui me demandent mon avis sur tel bouquin. C'est presque drôle, et puis c'est un petit peu tragique. Et vraiment, on dirait que, déjà premièrement, ils pensent que je leur dois de mon temps de cerveau, d'explication, tout ça. Deuxièmement, on dirait qu'ils pensent avoir des trucs intéressants à me dire sur le sujet, c'est quand même incroyable. Et troisièmement, on dirait qu'ils veulent bien me montrer qu'ils sont tellement déconstruits. Parce que moi je suis tout à fait pour que les types s'informent, et même pour discuter avec eux des trucs. Mais je suis pas trop pour qu'ils considèrent que les bribes de connaissances qu'ils acquièrent leur servent essentiellement à, déjà, se penser hors de la catégorie des hommes oppresseurs et à faire de la misandrie un sujet de discussion sur lequel, du coup, ils ont du pouvoir et le pouvoir de discourir grâce à leur sentiment de légitimité intellectuelle.
Œil pour œil, dent pour dent, il est grand temps démasculé. On va crever tous les machos.
Les MC circulaires veulent m'enculer à sec avec du gravier. Les orales, ça veulent prendre un opinel pour me faire avorter. Les TTC veulent que je marche droit, que j'avale, je me mette à aboyer. Œil pour œil, dent pour dent, il est grand temps d'émasculer. Ils font du fric sur notre dos par leurs mots lacérés. On va crever tous les machos avec nos langues acérées. Les mêmes conneries sur les fréquents, changement de programme, il y a urgence. Car depuis nos plus tendres enfants, ça m'attrape les mêmes violences. Au clair de la lune, je suis très fatigué. À la belle moule de me faire harceler. À la claire fontaine, à chacun de tes couplets. Libéré, délivré, mais faut pas trop abusé. Alors non, je n'ai pas honte, il est l'heure de rendre des comptes. On démonte tous les mastos dont est leur punchline à coup de barre en fonte. Et leur punchline à coup de barre en fonte. De l'air mon vent, très messin sont donc les grappes de ta vie. Pas besoin d'un arbre viril, je coupe le mal à la racine. Gautier, mon ombril est l'astre de mon vin, par où seul l'amour entre. Sérieusement, si en plus tu te trompes dans tes reportes, les noms des poètes de la subtilité, la forme en dorme, le fond demeure sans ambiguïté. Nos corps fragmentés à coups d'images florales et cosmiques, on croirait qu'ils tournent un porno dans un jardin botanique. Ils ont les mots pour le dire, leur sexisme est légitime, il est bon pour l'école et la culture. Les ministères sont unanimes, les mêmes connards intouchables ont leur place au panthéon. Ils colonisent les mentalités, se ramassent de Napoléon. Au clair de la lune, je suis très fatigué. À la belle chamoule de me faire insoler. À la claire fontaine, à chacun de tes couplets. Libéré, délivré, mais faut pas trop abuser. Alors non, je n'ai pas honte, il est l'heure de rendre des comptes. On démonte tous les mastodontes et leur punchline à coups de barre en fonte. Et leur punchline à coups de barre en fonte. Je vais de l'orgue mal compétit. Ma marque de fabrique, leur lyrique me donne la très pour qu'il est leur coup symbolique. Chanteur, papa, paillette, rabionnera, casquette, poète, zacolerette. Ça paie bien d'écrire avec sa kékère. Je reprends le monopole du hardcore. Surtout s'ils ne sont pas d'accord. Les masques ou ces gardes du corps pour ensemblanter le décor. Ne nous demandez pas de sourire, c'est pas le moment. Trop occupé à croquer la bite à pleine dents. On leur fout tellement les boules, ça coule de bourse. La misandrie, puis la bite abattue dans la course. Pour débarrasser les ondes qu'ils inondent de leur vie. La musique de papa est au prépuscule de sa vie.
La musique de papa est au prépuscule de sa vie.
La lune, je suis très fatiguée. À la belle chemoule de me faire harceler. À la claire fontaine, à chacun de mes couplets. Libéré, délivré, mais faut pas trop abuser. Alors non, je n'ai pas honte, il est l'heure de rendre des comptes. On démonte tous les mastodontes et leur punchline à coups de barre en fonte. Et leur punchline à coups de barre en fonte.
c'était le groupe Émasculation avec une chanson qui s'appelle La musique de papa. Bon, là on va rentrer sur le terrain glissant des relations intimes. Et non, je ne parle pas de lubrification. Et bon, sur ce terrain glissant, tout ça, il faut garder... Enfin, il faut... Moi, j'essaye de garder en tête deux, trois petites choses parce que sinon, je pleure, en fait, un peu. C'est que j'essaye de parler de structure en me basant sur de l'analyse sociologique, anthropo, tout ça. Donc, sur de l'analyse et sur des expériences individuelles et collectives. Et puis, je fais des hypothèses. Mais bon, dans la vie... On ne trouve pas qu'une application stricte des schémas relationnels dictés par le patriarcat. Les trucs qu'on essaye de détecter, là, c'est pas... Il n'y en a pas une application stricte. Et heureusement qu'à côté de ces rapports de pouvoir, qui sont quand même toujours présents dans les relations, ils disparaissent jamais, pour l'instant, il y a toujours des trucs qui se passent au niveau interpersonnel et des trucs qui nous font du plaisir et de la beauté. Voilà. Et c'est toujours un peu un problème quand t'es féministe et que tu relationnes, même juste amicalement avec des types, de capter que tu trouves de l'intérêt dans ces relations et que tu aimes les personnes, mais que tu sais pertinemment que les rapports de pouvoir entre ces personnes et toi, ils sont inégaux à cause de la domination masculine. Et il y a une petite collision des émotions et puis de la conscience des rapports de pouvoir. Voilà. Et des fois, ça fait la culpabilité, ça fait la tristesse, hein, ça fait l'énervement. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ces motifs récurrents de structure de domination dans les relations, ça peut aider. Ça peut aider parce que comme ça, on les reconnaît, on les évite, on les démonte avec soin. Et puis, on les range à tout jamais dans les trucs nuls du passé. En fait, et si, en fait, on va faire ça, on y croit. Et tant qu'on y est, on va abolir le genre, comme ça, là, maintenant, ce soir. On va abolir le genre, sauf quand c'est pour jouer. Il paraît que quand on est énervé comme ça et qu'on en veut à des gens, souvent, c'est qu'on est jalouse d'eux. Et moi, j'assume. Ouais, je suis hyper jalouse des types. Ça arrive de se comparer plus ou moins consciemment aux types de notre entourage. Et puis ça peut foutre les boules assez gravement, en fait, étant donné que la vie est plus facile pour eux. La concurrence directe avec un partenaire masculin, ça peut piquer un petit peu à cause de, déjà, tout ce qui peut nous tracasser au sujet de trucs qu'on veut accomplir, notre valeur en tant qu'humaine, comment les gens perçoivent nos capacités, nos compétences, les reconnaissent. Tout ça, ça fait de l'injustice. Tout ce qui fait qu'on est apprécié pour ce qu'on est et pas parce qu'on est de potentiels partenaires sexuels ou petites amies. En gros, le type, il a automatiquement plus de valeur pour ce qu'il est et il rencontre moins d'obstacles pour mener à bien les choses qu'il a envie de mener à bien. Ça veut pas dire qu'il est plus heureux ou qu'il a pas d'empathie ou je sais quel truc. Ça veut juste dire que, toute chose égale par ailleurs, c'est plus facile. Et il y a également, en tout cas, j'en ressens, je sais que je ne suis pas la seule, une jalousie vis-à-vis de la facilité à trouver des personnes avec lesquelles relationner. Et on pourrait appeler ça le précariat relationnel. En fait, un type vaguement cool en relation, qui soit vaguement cool, avec lequel c'est vaguement cool de sortir, en fait, il se situe déjà bien au-dessus de la norme des types. Donc un type à peine correct, pas trop violent, pas égoïste au point de te laisser crever, et qui sait aligner une phrase et demie de temps en temps sur ce qu'il ressent, déjà c'est le haut du panier en fait. Alors si t'es en relation avec une de ces « perles rares », entre guillemets, c'est un petit peu la pression. Parce que toi, 90% des types que tu pourrais rencontrer seront insupportables en relation. On a vu un peu le pourquoi du comment avec la charge émotionnelle, relationnelle et sexuelle tout à l'heure. Et d'un autre côté, quasi toutes les meufs qu'il pourra rencontrer seront au moins agréables dans un cadre de relation. Et cette injustice, elle est atténuée par des élans d'attirance qui visent mieux au bout d'un moment, par des sens aiguisés, au fil des rencontres avec divers hommes tête de cul relationnels. on a un sens de la présélection qui se développe, mais l'impitoyable statistique, elle est quand même bien là. On a plutôt intérêt à pas se faire larguer. Genre, on a plus intérêt qu'eux à pas se faire larguer. Et ça fait un rapport de pouvoir qui est désavantageux pour les meufs. Et ça fait moins de confort, moins de confiance. On va consciemment ou pas rogner sur nos exigences et notre bien-être. Faire des concessions. Ce qui n'est pas un souci en soi, les concessions. Mais ça peut le devenir dans un cadre où le rapport de pouvoir il est nettement déséquilibré. En fait, c'est comme quand on a un job pas trop dégueu. Genre, par exemple, éthiquement, c'est super et tout. Et que du coup, on encaisse tous les trucs de merde, de management et autres abus. Parce qu'on a déjà bien de la chance d'avoir ce job. Donc, premièrement, c'est plus dur de rencontrer des partenaires qui seront chouettes en relation. Et deuxièmement, ça met la pression à s'écraser pour pas qu'ils nous quittent. Et tout ça, ça nous donne le précariat relationnel. Sujet suivant. Encore un truc hyper joyeux. Les échantillons gratuits et la tiédeur. Peut-être vous avez vu la dernière BD de Liv Strömquist, La rose la plus rouge. Elle explore l'amenuisement et le désenchantement du sentiment amoureux. Elle consacre une partie du bouquin au déséquilibre relationnel structurel en faveur des hommes dans les relations hétéros. À savoir que les relations amoureuses, elles existent toujours parce que les femmes continuent d'aller vers les hommes et d'entretenir les relations. Les hommes assaillent leur position dominante dans les relations en gardant une attitude d'indépendance, voire d'indifférence, tout en recevant l'intérêt et le confort affectif offert par les femmes. Strömquist pense que c'est lié à des changements dans les structures sociales, au fait que la masculinité repose à présent sur une indépendance forcenée. Bon, pourquoi pas, mais on parle du coup du maintien d'une distance affective pour conserver le pouvoir dans la relation. Et la version extrême de ça, moi j'appelle ça la méthode échantillon gratuit, la méthode relationnelle échantillon gratuit. Donc ça c'est quand, en gros, on est consommé, que la personne en face prend tout ce qu'on donne régulièrement, mais qu'elle ne consacre pas une seconde à aller vers nous ou à notre confort ou à l'entretien de la relation. Parce que la réciprocité, c'est pas une évidence pour tout le monde. Et du coup, le rapport de pouvoir est maintenu par une apparente indifférence à la continuité ou non de la relation. Les explications obtenues lorsqu'on demande une justification à l'emploi de cette méthode sont variées. Je viens d'écrire deux. Numéro 1, donc la personne peut dire « Mais je valorise la liberté individuelle. » Le sous-titre étant « Je valorise ma propre liberté individuelle parce que celle des autres, elle est en suspens du fait de mon silence sur ce que je veux, sur ce que je ressens. Ce qui est accentué par mes propres comportements incohérents et des manifestations d'intérêt aléatoires. Mais c'est probablement toi qui es dépendante affective. » Justification numéro 2 qui peut être évoquée. « On ne s'est rien promis. » Mais sérieux, en fait, prévenez. Bon, ça voudrait dire que vous allez consacrer de l'énergie à prononcer une phrase. Et c'est bien le problème, l'absence d'énergie consacrée à ce qui se passe. Mais dites-le, en fait, que quand quelqu'un vous aime bien, vous avez soudain l'impression de jongler avec de la lave en fusion et que vous allez être des culs incohérents. Ça ira plus vite, ça nous vous épargnera des désagréments. Bon, ça, c'était pour la méthode échantillon gratuit. Et la tiédeur. La tiédeur, quant à elle, ça consiste à une variante de la technique des échantillons gratuits. Le type se transformant en fantôme mou dès qu'on exprime autre chose qu'une admiration béate pour lui et qu'une acceptation totale et inconditionnelle de tout ce qu'il dit, fait et veut dans le cadre de la relation. Toute demande d'ajustement, toute expression d'émotions négatives plus complexes que « j'ai faim » finissent par une mise à distance, voire une rupture. Il paraît que c'est dur de se sentir insuffisant. Eh bien, c'est aussi dur de se sentir dispensable. Je vous laisse estimer qui est avantagé par le rapport de pouvoir dans une relation de tiédeur. Pour se détendre un petit peu, je vais vous lire un poème, un petit poème. Et ce poème, je savais pas trop à qui le dédicacer, du coup je le dédicace à tous les mecs cis. C'est un poème très court. tu es tiède comme la pisse au fond d'une cuvette de chiottes dans un restaurant de bord d'autoroute. Baiser avec toi, c'était comme entrer lentement dans une piscine remplie de sueur de canicule. De la sueur douce de transpiration statique. Ça sent pas franchement mauvais, c'est juste insipide. J'aurais cru et j'aurais pas dû. Tu me donnes envie de boire du calimucho en pleurant sur le parvis d'une église à minuit. Voilà, et ben c'était pas ambiance palmier sable chaud, mais bon, des fois faut que ça sorte, hein. Je vais conclure avec une citation de l'intro de la brochure de Corinne Monnet qui s'intitule « À propos d'autonomie, d'amitié sexuelle et d'hétérosexualité » qu'on trouve facilement sur le site InfoKiosque. Lorsque je considère que le personnel est politique, je dis d'une part, que ce personnel est susceptible de changement, puisque non déterminé biologiquement, et d'autre part que le comportement affectif et sexuel est bien un comportement social. Autrement dit, le personnel fait partie de l'ordre politique que je souhaite changer. Dire que le personnel est politique n'est pas pour moi seulement dire que le politique influence le personnel, mais bien plutôt que les choix pratiques dans notre vie privée ont des significations politiques. Voilà. Le personnel est susceptible de changement. À bons entendeurs.
Joli garçon, il était accompagné de sa mère. J'aurais dû me douter que c'était pas bon. Quand il m'a invité pour une danse, il avait l'air d'avoir emballé son parapluie. Il pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Quel drôle d'apôtre cet oiseau-là. Votre fils, madame, c'est une tarte molle. Me faire embrasser.